formes et les bords.
Bonjour Amaury Cornu.
Bonjour Jeanne.
Vous venez à Chambéry dans le cadre du festival Les Changeurs de Son pour faire une conférence autour de Moondog, ce musicien qu'on appelle aussi bien le viking de la 6ème avenue, ce musicien quand même assez méconnu, mais passionnant et assez fascinant. Comment vous êtes tombé là-dedans, vous, déjà?
Je suis tombé là-dedans il y a 7-8 ans maintenant. Je faisais des chroniques sur un blog et j'ai découvert la musique de Moondog à une soirée chez un ami. Et en rentrant chez moi, j'ai foncé sur les internets pour regarder un peu ce qui était ce Moondog. Et j'ai commencé à faire un espèce de compilage de sources diverses, surtout anglophones, traduites pour faire un petit papier de 14 pages sur mon blog, donc qui était déjà le premier truc de fond que j'avais jamais fait. Et j'ai commencé à creuser davantage Moondog. En fait, c'est devenu une passion dévorante. Voilà, puisque je réalisais à mesure que je trouvais des infos qu'il y avait encore plus de choses à découvrir que ce qu'on voulait bien nous faire croire.
Présenteriez pour les gens qui ne connaissent pas Moondog, au-delà du personnage, c'est un musicien hors pair, mais il y a un imaginaire vraiment autour de Moondog. Moi, je le trouve très romanesque. Je trouve qu'il y a quelque chose de romantique, mais très romanesque aussi.
Bah, il y a plein de tout ce que tu dis, c'est extrêmement juste. Il y a plein de fenêtres ou portes effectivement ou ponts pour découvrir et puis naviguer dans l'œuvre de Moondog qui s'étend sur 50 années de composition. Il y a plusieurs façons de rentrer dedans. Sur les conférences, moi j'avoue que c'est un peu pompier, mais je le confesse, mais j'aime énormément partie de Bird's Lament que tu fredonnais tout à l'heure. Parce que en fait les gens réalisent d'un seul coup, en une fraction de seconde, parce que c'est aussi ça la force de Moondog, c'est de se rendre compte que c'est du Moondog au bout de quelques mesures, qu'en fait tout le monde connaît Moondog à travers ce tube qui est Bird's Lament, qui a été remixé par Mr. Scruff en 99, qui a été utilisé dans un générique de France Télécom, sur des émissions, sur Antenne 2, quand on n'était pas né ni l'un ni l'autre. Voilà, Bird's Lament, ça permet de casser cette imagerie un peu de vieux barde, bizarroïde, fleuron de l'avant-garde, qu'il était sans être. Donc voilà, Bird's Lament, c'est une première porte. Après, il y a tout l'aspect biographique résumé. Savoir que depuis tout à l'heure, toi et moi, on parle d'un compositeur de musique classique avec un format souvent pop qui utilise du jazz et en même temps des rythmes amérindiens. Donc déjà, on navigue dans plein d'esthétiques musicales différentes et c'est ce brassage qui était un des premiers d'ailleurs métissages musical à l'époque puisqu'on évoque la fin des années 40, le début des années 50. Donc déjà, c'était innovant et peut-être avant-gardiste de cette manière-là, mais d'une belle manière qui fait pas trop peur. On parle de quelqu'un qui est devenu aveugle à l'âge de 16 ans, un 4 juillet, donc jour de l'indépendance américaine, en ramassant une amorce de dynamite qui lui a explosé au visage. Donc il y a un côté, quand je parlais de légende tout à l'heure, c'est vraiment ça. Toute sa vie, et quand toi tu t'évoquais le côté romanesque, la biographie que j'ai écrite, j'ai pris du plaisir à l'écrire aussi parce que quelqu'un qui n'est pas forcément musicien ou même musicologue, qui est partiellement mon cas, on peut prendre du plaisir aussi à suivre la vie de ce personnage à travers un siècle, qui est aussi ce que je raconte dans la conférence, c'est-à-dire comment Moondog a pu créer des connexions entre des esthétiques pendant ce 20e siècle qui était si riche musicalement et comment raccrocher tous ces wagons. Donc ça, il y a le caractère romanesque, l'histoire, donc musicien de rue pendant 25 ans dans les rues de New York, qui ensuite a redémarré une vie du côté de notre côté de l'Atlantique, puisqu'il a traversé l'Atlantique en 74, donc quelqu'un qui laisse tout ce qu'il a, qui laisse notamment deux albums chez la Columbia, donc un album qui s'est vendu à 25 000 exemplaires, ce qui est quand même pas mal pour un musicien de rue aveugle et mendiant. Qui quitte tout ça, hein, qui démarre en Allemagne sans connaître personne, sans parler la langue, et qui recompose une partie de son œuvre et qui surtout l'étend, la développe avec toute cette imagerie germanique, nordique, européenne, qui va nourrir son travail de composition et qui va finir par réussir à se refaire une carrière puisqu'il va signer chez Atlantic Records à la fin, donc c'est Ray Charles, Led Zeppelin et AC/DC. Donc c'est quelqu'un qui va évoquer plein d'esthétiques musicales, donc déjà en ça tout le monde peut s'y retrouver, et qui va permettre d'ouvrir plein de portes et de décloisonner beaucoup, et je crois qu'en 2016 on a vachement besoin de ça, donc voilà, c'est un super remède contre la tristesse.
Vous parliez de percussion, Moondog c'est quelqu'un qui très jeune a été traîné du côté des réserves amérindiennes et qui a participé à des rites sacrés et initiatiques et qui derrière donc a inventé de très nombreuses percussions comme le ou, le utsar, le uni, le us, le tumba. Vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, la trimba qui est qui est l'élément central de sa musique, c'est un peu sa darbuka à lui si tu veux, c'est vraiment un instrument fascinant. Et c'est d'autant plus fascinant, j'en prends d'autant plus conscience que j'ai réuni récemment une équipe de luthiers et d'ébénistes pour en refabriquer une. Et quand je vois ces professionnels du bois, pas galérer, mais en tout cas s'arracher les cheveux sur comment concevoir une trimba, ça rappelle à quel point la vie de Moondog et tout ce qu'il a pu entreprendre était vraiment particulier et fascinant, puisque c'est très difficile. Il va frapper en fait la peau avec une maracas en continu sur des rythmes un peu inusités qu'il adorait, donc les rythmes en 5 temps et en 7 temps, qui sont des rythmes impairs et qui sont une façon pour lui de concilier l'écriture classique et rigoureuse et l'irrégularité de la musique amérindienne. Donc c'est des rythmes qu'on entend plus maintenant, qu'on entendait peu. Et Moondog, on a fait sa marque de fabrique et on retrouve ça en fait tout au long de sa carrière. Ses premiers enregistrements, c'est vraiment les tout premiers, 78 tours à l'époque. C'était des solos de percussion. Et en fait, on va retrouver ça, ça va filer jusqu'à la fin. On va retrouver dans quasiment tous ses disques après.
Moondog, c'est quelqu'un qui a eu une vie d'extérieur et j'aimerais bien comprendre dans quelle mesure ça a joué à la fois évidemment sur son personnage, sur son imaginaire à lui et puis bien sûr sur sa musique et sur sa création puisqu'à partir de 49, eh bien, il a 35 ans et il vit dans la rue à New York et sa résidence secondaire dans le New Jersey, comme il l'appelle, n'est autre qu'un lopin de terre sur lequel il a posé une tente et les rues vraiment étaient son théâtre et moi quand je pense à Moondog, je pense à un homme sauvage, vraiment.
C'est juste, il avait une posture. Les rues, c'était son terrain de prédilection, son stamping ground, qui était le lieu dans lequel il pouvait combiner sa passion pour la vie nomade amérindienne, qui le fascinait. Il a essayé même de rejoindre des tribus à un moment, après s'être fait virer du Philharmonique de New York, il assistait aux répétitions. Il a dit, finalement, je vais essayer d'aller vivre avec les Indiens, il doit être plus cool. Et en fait, ça s'est pas passé parce que c'était un blanc quand même, donc il y avait encore du boulot à faire sur tous ces champs-là. Donc il est revenu dans les rues. Il combinait donc sa passion avec la vie un peu sauvage, effectivement. Le fait que ça lui permettait aussi de sauver un peu d'argent, de pas avoir de frais d'hôtel à payer, ça lui permettait de garder un peu l'argent qu'il gagnait en vendant des partitions, des poésies. Pour donner cet argent pour payer des copistes en fait, parce qu'il composait en braille ou alors il faisait des dictées musicales, mais donc pour écrire son œuvre il avait besoin d'aide. Et puis on est à New York au début des années 50, donc tout se paye. Donc il y a un peu ça, en même temps c'était un théâtre pour lui, parce que ça a vraiment créé à l'époque une émulation autour de sa figure. C'était quand même une icône des rues de New York pendant plus de 25 ans. Ça a démarré avec des badauds un peu curieux, effectivement les jazzmen que tu as cités en début d'émission qui sont fascinés pour Moondog. La presse, idem en fait, a suivi les radios, les journaux. Donc tout ça, et en même temps il a rencontré son producteur pour la Columbia, qui a rendu possible la création de cet album avec les musiciens du Philharmonique de New York qu'il a rencontré dans la rue. Et donc tout ça, c'était un mélange en fait de nécessité, de passion et en même temps d'aventure. Moi, je repense à une anecdote avec des publicitaires d'agences de voyage new-yorkaises qui disaient New York, c'est hyper cool, vous pouvez tomber sur Moondog. Donc c'était une figure, on était avant la Beat Generation, parce qu'ensuite, quand tous ces gens-là, tous ces frics sont arrivés, Moondog, c'était... Voilà, il y avait ce côté un peu père aussi de ça, puisqu'il était barbu, hirsute, bizarroïde.
En tout cas, lui se considérait comme beaucoup plus proche des imageries médiévales, notamment parce que dans sa musique, il utilisait aussi le contrepoint, le canon, qui sont des procédés d'écriture vraiment issus de la musique classique, beaucoup plus du Moyen-Âge. Et voilà. Donc il a toujours eu des statues dont il ne voulait pas.
Oui. Il y avait ça, mais c'était, encore une fois, c'est quelqu'un qui était plein de contradictions. La formule de Philip Glass et Steve Reich sur le côté père fondateur de la musique répétitive, elle est intéressante parce que déjà, c'est des gens qui savaient très bien que Moondog, c'était pas le père fondateur de la musique répétitive. C'est des gens, Steve Reich a fait son mémoire sur Pérotin le Grand, qui est un compositeur du XIVe siècle. Donc c'est des gens qui savaient très bien que ces processus de répétition, de canon, ces formes existaient bien avant, et Moondog s'en défendait justement en citant ces références. Après, c'était malin du point de vue un peu marketing, c'est quelqu'un qui a utilisé des bourdons, des drones dans sa musique, même avec un peu d'avance si on veut jouer à la course avec quelqu'un comme la Monte Young. C'est quelqu'un qui utilisait ses procédés dans sa musique à une époque où les gens le faisaient plus depuis très longtemps. Et c'est pareil avec le contrepoint, c'est après Jean-Sébastien Bach, c'est complètement tombé en désuétude. Et lui, il en a fait le fer de lance, si je peux me permettre, de son œuvre. Donc effectivement, c'était quelqu'un qui était moderne et pas passéiste, mais en tout cas, il évoquait le fait que dans sa mélodie et son harmonie, il y avait quelque chose de très classique. Rythmiquement, il concédait le fait qu'il était un peu bizarroïde. Un de ses tout derniers albums, c'est Eltmas en 92, produit par Andy Thomas de Mouse & Mart, une grande figure de l'électro, et qui dénonce l'évolution et qui se veut être un manifeste au peuple aborigène et donc qui dénonce les évolutions technologiques tout en étant enregistré à l'aide d'ordinateurs. Donc c'est parce que c'était une façon effectivement justement très, très intéressante pour lui d'écrire des canons et de les faire jouer strictement, très strictement et très purement. Mais en même temps, on dénonce la technologie en l'utilisant et donc il y a tout ça qui fait Moondog, qui constitue une partie non négligeable du personnage.
Le long format est mort.
Mon jazz est influencé plus par les Indiens d'Amérique que par les Afro-Américains. Mon jazz est plus dans la lignée du jazz des années 20 et 30. Ma musique et mon jazz sont écrits de façon classique. C'est une combinaison d'influences indiennes et européennes. Je suis européen du côté du cœur. Je me sens plus chez moi ici en Europe qu'aux États-Unis.
J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur Eltmas, justement, qui est donc un manifeste contre les mauvais traitements infligés au peuple aborigène, à la nature, aux animaux. Quand on écoute Eltmas, c'est comme si on empruntait des petits sentiers sonores et on se déconnecte déjà complètement de son environnement pour partir dans le sien et dans ce qu'il veut nous raconter. Est-ce que vous pouvez nous raconter là un petit peu l'histoire de ce manifeste sonore ?
Bah oui, alors c'est très particulier parce que moi c'est mon premier achat Moondoguin, Eltmas, qui existe qu'en CD. C'est un album que je suis en train de remonter sur scène avec des vrais marimbas, donc pour organiser des concerts autour de cet album qui est effectivement un ovni de plus dans la discographie foisonnante de Moondog, il y en a d'autres. L'histoire des sentiers, c'est un mot que j'avais utilisé sur une chronique, c'est effectivement, moi je trouve ça très pertinent. La déconnexion, on rentre très vite dans l'univers Moondoguien à travers cet album. Il y a le côté très répétitif, en même temps il y a l'utilisation de field recording, il y a une écriture classique, contrapuntique et canonique. Donc il y a un côté tribal, parce que même si sur du mauvais matériel on l'entend pas, mais il y a une percussion très sourde qui est très très belle, très profonde et qui évoque sa passion pour les Amérindiens. Il y a des références, en même temps il y a des pièces japonisantes, donc on est vraiment dans tout ce mélange et ce beau maelstrom qui compose la musique de Moondog, et tout se retrouve comme ça sur un disque qui se tient, qui est riche. Et effectivement, il y a la déconnexion, pour moi, elle arrive avec cette pièce absolue qui est Cosmic Meditation, qui est une pièce qui dure 24 minutes, et au bout de 3 minutes, moi, je peux plus dire quelle heure on est, quel jour on est. Enfin, ça fonctionne très très bien sur moi. C'est vraiment une pièce hyper ambiante, construite selon des lois, parce qu'il avait aussi des théories musicales assez poussées justement sur le contrepoint et la pureté du contrepoint, qui a souvent été assimilée à quelque chose de divin. Il lui disait, mais non, c'est que des maths, rendez-vous compte. Et donc il a fait ce Cosmic Meditation qui conclut l'album et qui permet de digérer tout le voyage qu'on vient de faire et de repartir encore plus loin. Donc c'est quelqu'un qui amène toujours qui déroute en permanence et qui amène toujours plus loin. Ouais. C'est un superbe album.
Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio et les Bords aujourd'hui. Dans les longs formats, eh bien, je reçois Amaury Cornuch. Il est biographe de Moondog, Louis Thomas Harling, un grand musicien du XXe siècle qu'on appelait et qu'on appelle encore le Viking de la 6e avenue. Et en parlant de New York, on retourne à New York. Est-ce qu'on peut parler du grand retour de Moondog à New York en 89, alors qu'on le croyait mort et enterré parce qu'il avait disparu de son porche à l'angle de la 6e et de la 54e avenue?
Et Moondog a déserté effectivement les rues de New York en 1974, comme je le disais tout à l'heure. Paul Simon de Simon & Garfunkel a annoncé sa mort à la télé américaine, mais c'était pour mieux renaître, hein, comme on l'a dit, en Allemagne. Et en 1989, à l'invitation de son ancien coloc, qui s'appelait Philip Glass, Moondog revient à New York pour diriger le Brooklyn Orchestra, Chamber Orchestra, qui va jouer... ces pièces tirées de l'album de la Columbia en 69, donc l'album cultissime de Moondog, où on retrouve Bird's Lament, le fameux tube, Stamping Ground, où j'évoquais entre les lignes l'existence tout à l'heure, qu'on retrouve dans la BO du Big Lebowski par exemple, encore un élément qui prouve qu'on a tous un peu écouté du Moondog dans notre vie. Et il a joué donc ces pièces-là et des nouvelles pièces que le public américain n'avait jamais entendues. Je pense notamment à Dark's Eyes. Donc le public américain, lire la presse de l'époque, c'est assez génial parce que c'était l'euphorie. Tout le monde était très très content de voir que Moondog n'était pas mort. Il y a des gens qui lui ont même demandé de rester à New York, mais il était vraiment appelé par l'Europe. Donc c'était un beau et grand retour, mais depuis il a quitté New York et je sais pas quand est-ce qu'il y retournera. J'espère bientôt.
In the year 3955, the world comes to a fiery end. This isn't prophecy. It is actually being witnessed by Earth's last two living beings.
Liberté, en fait.
Bah, de fait, une liberté, et en même temps, voilà, on peut revenir aux contradictions de Moondog. Une grande contrainte et une grande liberté en même temps.
On est tous peut-être un peu comme ça, quelque part. Des hommes et des femmes sauvages dans un monde qui l'est un peu moins. Amaury Cornuch, merci beaucoup d'être venu sur les ondes de Radio et les Bords. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver déjà la biographie de Moondog aux éditions Le Mot et le Reste. Et puis toutes les infos, le SoundCloud, le site internet d'Amaury Cornuch qui s'appelle Moondog.
Ouais, c'est fr-moondog.com.
fr-moondog.com et toutes les autres infos sur notre page internet sur le www.radio-elebor.com.
Merci.
Amaury Cornu, bonne tournée de conférences et puis à très bientôt, notamment à Lyon, dans le cadre des Nuits de Fourvière avec le très beau projet de Moondog.
Grand plaisir, merci pour l'invitation.
My contribution to the peace movement, it's called a hymn to peace. If we don't find a way to peace amongst humanity, we're all lost.
Le long format et les bords.